écoutez Club Margoton.
Aujourd'hui, c'est Hugo Loris qui vient se raconter un peu au micro de Club Margoton. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas Hugo, il est le gardien et le capitaine de l'équipe de France de football depuis plus de 10 ans. Avant tout, c'est un homme discret, il parle peu et rarement pour ne rien dire. Alors forcément, quand il décide de se confier sur son parcours, on tend l'oreille. Enfin moi, je serai vous, je tendrai l'oreille. Bonjour Hugo.
Bonjour Grégoire.
Bon, salut, je précise que pour celles et pour ceux qui nous écoutent, que cet échange se fait à distance. Tu es donc chez toi à Londres, qu'on est en période ici en France de déconfinement, on l'appelle comme ça, un peu surveillé. Est-ce que la situation est la même chez toi, là, en ce moment, de l'autre côté de la Manche?
De notre côté, on est toujours en confinement. Après, il est un peu plus léger qu'en France, dans le sens où on n'a pas besoin d'autorisation pour pouvoir se déplacer, mais on va dire que ça dépend quand même de la responsabilité de chacun, de respecter les règles, notamment de distance. Mais on a la sensation que c'est en train de recommencer progressivement et que la vie reprend progressivement son cours.
Ben on souhaite en tout cas que ça reprenne pour toi, pour ceux qui en ont besoin dans ton club, dans les clubs de la Première Ligue. Toi, tu es à Tottenham. On va pas refaire toute ta vie, mais quand même un tout petit peu. On dit souvent que le gardien de but dans les équipes de jeunes, c'est celui, alors c'est un vieux cliché, qu'on a collé entre les poteaux parce qu'il était trop limité dans le champ. Toi, à 7 ans, ou même avant, je ne sais pas, tu vas me le dire, tu ne voulais qu'être gardien déjà.
Oui, alors moi j'ai commencé par le tennis.
C'est ça.
Mon idole c'était Pete Sampras, c'est le seul poster que j'avais dans ma chambre.
Donc tu préférais à 7 ans quand même le short blanc et la jolie raquette de Sampras que Joël Batz qui plongeait dans la boue, clairement.
Oui, et puis clairement, je regardais même pas le football, c'est-à-dire
Ah.
j'ai commencé à découvrir le football. Mes premières images de football, c'est peut-être la Coupe du Monde 94. Mais la France n'y participe pas. Mais le réel souvenir, c'est 98. Bon, j'étais un peu plus âgé quand même, je devais avoir 12 ans. Mes premières ambitions, elles sont dans le tennis. Alors j'étais petit, mais apparemment, quand je commençais à marcher, je voulais qu'une chose, c'était tenir une raquette et taper dans une balle. Mais c'est au sein de ce club de tennis que j'ai découvert le football et j'ai fait mes premiers plongeons. Et puis le responsable du restaurant était un ancien footeux. Et m'a plutôt orienté vers le football. Enfin, il a voulu que je me rende vers le football et il m'a présenté à l'époque, c'était Régis Bourneton qui était éducateur au CEDAC de Cimiez. J'y suis allé avec l'envie d'être gardien de but. Et mes 2-3 premières années en débutant, bah, jusqu'en poussin, c'était gardien de but.
Donc c'était football et tennis ensemble à ce moment-là.
Ouais, voilà. Football et tennis, je jonglais entre les deux.
Et qu'est-ce qui a fait que le football a gagné la bataille contre le tennis?
Et il a fallu que je choisisse. J'avais plus le temps. J'avais plus le temps de jongler entre les deux, entre l'école. Le football demandait déjà à l'époque 4 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end, en plus les devoirs, etc. J'avais du mal à jongler avec les deux. Mais c'est arrivé vers 11 ans, 12 ans, où il a fallu, même ouais, 10 ans, 11 ans, où il a fallu que je décide. Et ça s'est orienté vers le football parce que c'est un sport collectif et c'est vraiment là où je me retrouvais. Et que je m'épanouissais complètement. Bon, il y a eu un passage également où j'ai cherché à mettre des buts. Donc j'ai touché également au secteur offensif et d'ailleurs je me débrouillais plutôt bien. Mais à l'époque, voilà, il y avait un certain Dominique Baratelli à l'OGC Nice qui m'avait repéré et qui avait vraiment insisté pour que je me remette dans le but parce qu'il avait vu en moi un certain talent et certaines qualités.
Ouais, et il savait ce que c'était d'être un grand gardien de but, Dominique Baratelli.
Ouais.
Donc, tu deviens footballeur, mais tu me parles de collectif, c'est ce côté collectif qui te plaisait au foot par rapport au tennis, et en même temps, dans ce côté collectif, tu as choisi le rôle où on est un peu tout seul, d'une certaine manière. Le rôle qui est différent des autres, t'as pas le même maillot, t'as pas le même poste, t'as pas les mêmes possibilités.
Ouais, c'est un juste milieu entre le tennis et le football. Voilà, j'ai choisi gardien de but. Non, mais je retrouve l'aspect un petit peu individuel parce que le poste, la demande du poste le veut. Voilà, c'est un poste à part, on le sait. On porte des gants, on porte un maillot différent. On a le droit de jouer avec les mains. Mais en même temps, voilà, c'est un poste qui s'attache à un collectif et qui demande beaucoup de responsabilités. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé très tôt, très jeune. Cette faculté, cet impact, voilà, à pouvoir aider ses coéquipiers, à pouvoir faire tourner un match, également connaître les premières erreurs et rentrer à la maison avec cette déception et cette rancœur envers soi-même. Mais tout ça, voilà, ça fait partie du chemin, du développement de soi-même et c'est ce qui m'a aidé à, voilà, à franchir les étapes les unes après les autres.
Comment tu gérais justement les buts encaissés? Tu les gérais de la même manière qu'une défaite au tennis? Est-ce que tu cassais ta raquette au tennis? Est-ce que tu revenais en pleurant d'une défaite de foot à cet âge-là?
J'étais déjà très ambitieux à cette époque-là.
La question était simple. Est-ce que tu
Non,
étais
non,
un
alors,
rageux? Parce qu'on t'imagine pas rageux.
bien sûr, j'ai ma personnalité. J'aime bien également ne pas m'ouvrir complètement au monde extérieur. J'ai ma personnalité, mais au fond de moi, j'ai cette envie de gagner et je déteste la défaite. Et je le contrôle plus aujourd'hui avec l'expérience, avec l'âge, que je pouvais le faire à 8 ans, 9 ans, 10 ans, où il y avait cette haine de défaite et ça pouvait se sentir. Où je pouvais ne pas parler pendant des heures après une défaite. C'est ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui. Bon, même si le contexte a changé, le monde extérieur a changé au niveau professionnel, mais le goût de la victoire, elle est tellement courte par rapport à celle de la défaite. La défaite, on peut rester jusqu'au prochain match avec ce goût amer. Alors que la victoire, en un jour, deux jours, ça y est, on est parti sur autre chose. Et on n'a même pas eu le temps de savourer. Donc c'est un peu injuste parfois.
C'est quoi l'expérience? C'est de laisser un peu plus de temps à la victoire pour infuser et de passer plus rapidement après une défaite. C'est ça aussi l'expérience. Ça permet de gérer mieux ce genre d'émotion.
Oui, alors on essaie souvent, après une grande victoire surtout, d'éviter de s'enflammer. Mais quand tu perds également, tu évites de pas être trop triste, quoi. Enfin, de pas être trop affecté. Et en fait, j'ai trouvé cet équilibre en fait dans le travail. C'est-à-dire que quel que soit le résultat, bon, il y a un jour, il faut laisser passer, mais à partir du deuxième jour, voilà, relancer la machine. Et en fait, le travail et l'effort permet vraiment de remettre les idées en place. Mais souvent, on peut comparer à. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être un athlète de haut niveau pour s'en rendre compte. Quelqu'un qui travaille tous les jours dans les bureaux, il peut à un moment donné aller faire un footing et c'est là où il va nettoyer un petit peu ses mauvaises ondes et rendre sa pensée un peu plus claire et précise. Donc, c'est grâce à ça, en fait, qu'on trouve un équilibre à travers les performances, les matchs. Tout ce qu'il y a autour, en fait, c'est lorsque je suis sur le terrain pendant les séances de travail où tu oublies un peu tout ça et tu es concentré sur l'essence même de ton métier, de ton sport. Pour moi, en tant que gardien de but, c'est d'arrêter les ballons. Hein. Et puis également de. Maintenant, ça a évolué, il faut se concentrer également sur la première passe, sur les relances. Mais. Donc, voilà.
On disait tout à l'heure que le foot avait petit à petit gagné la bataille face au tennis dans ta préadolescence. Et face aux études, pourquoi le foot gagne la bataille face aux études? Parce que tu continues des études, tu fais un bac scientifique. Est-ce que tu aurais pu à ce moment-là, à 16-17 ans, te dire, OK, j'arrête le foot et je fais des études et je prends un métier entre guillemets normal? Ça n'a jamais été une question pour toi?
J'avais le soutien de mes parents et surtout de mon père.
Oui.
Ma mère n'était pas trop foot, hein. Surtout que ça lui enlevait quelques semaines de vacances avec son fils à la montagne ou à la mer au mois d'août ou au mois de février. Donc, elle aurait préféré passer un peu plus de temps avec moi que de me savoir dans des stages ou sur des terrains de football. Mais plus tard, voilà, lorsque j'ai commencé dans le monde professionnel, elle était tellement fière, même si elle ne le disait pas, et qu'elle n'était pas trop fan de ce sport, mais elle était quand même très fière. J'avais comme un accord avec mes parents, c'est-à-dire si tu veux continuer le foot, il faut que, voilà, que tu travailles bien à l'école et que tu aies ton bac, mais un bac qui vaille quelque chose. Donc je suis parti sur une orientation scientifique, et honnêtement, c'est peut-être mes plus belles années, celles du lycée, où j'avais cette insouciance. Je passais mes journées au lycée, puis le soir j'allais m'entraîner, j'allais me décharger de la journée. Et puis le week-end, bon, je partais parfois pour le week-end pour jouer les matchs de championnat, ou quand c'était à domicile, je jouais le dimanche après-midi. Et c'est vraiment les années où j'avais pas eu le temps de réfléchir, mais voilà, j'avais ces objectifs bien précis en tête. Et une fois que j'ai eu le bac, bon, j'ai eu cette chance et cette opportunité de continuer dans le monde professionnel. Donc après. Bien sûr, il y a toujours un facteur chance, un facteur réussite, mais je pense que ce ne serait jamais arrivé sans le talent et sans le travail que j'ai mis derrière. Mais je pense également que les études m'ont permis de me forger certains caractères et ce qui m'a rendu aujourd'hui plus fort, et amener quelque chose à ma personnalité parce que j'en avais besoin à ce moment-là.
On l'entend bien, le facteur détermination et surtout le mot objectif. Quand je relis des interviews de toi et quand je t'écoute, là déjà depuis quelques minutes, il y a beaucoup et souvent le mot objectif qui revient. On était avec Didier Deschamps il y a une petite quinzaine de jours et il disait la même chose que toi. Moi, quand j'arrivais au Football Club de Nantes à 14 ans, mon objectif, c'est d'avoir un premier contrat pro. Ensuite, mon objectif, c'est d'être dans un grand club. Ensuite, mon objectif, c'était de gagner ça. Et il se fixait en permanence des objectifs. Est-ce que toi, ton parcours depuis 15 ans maintenant, un peu plus, même 16-17 ans dans le football, tu l'as mis en place comme ça, avec à chaque fois devant toi un objectif à atteindre.
Oui, alors est-ce que c'est propre à l'athlète de haut niveau? Je ne sais pas, mais je peux qu'avancer de la sorte. Pareil, lorsque je m'entraîne, j'ai besoin d'avoir un objectif final, c'est-à-dire la compétition ou un match. C'est difficile de s'entraîner tous les jours et sans avoir vraiment un but précis. C'est pareil dans la compétition, c'est pareil. Je pense que j'ai commencé très tôt à me fixer des objectifs. Et c'est vrai que lorsqu'on les atteint, parfois, on ne prend pas le temps de savourer hein, parce qu'on s'en redonne à nouveau et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on avance. Et puis
Et
après,
quand on ne les atteint pas, quand on ne les atteint pas, ça donne quoi?
bah, c'est parfois douloureux, mais on continue d'y croire, on continue de s'accrocher. Je crois qu'une chose également importante, c'est de jamais renoncer. Et ça, je l'avais déjà très petit. Lorsque j'arrivais pas, lorsque je butais sur quelque chose, il fallait que j'arrive à passer cet obstacle. Mais c'était un peu pareil, je me retrouvais dans les études. Lorsqu'on se retrouve devant un exercice et qu'on ne trouve pas pourquoi, bah, je continue, je continue, je continue, jusqu'à ce que je trouve la solution. Et puis, pour passer à l'étape suivante, quoi. J'ai du mal à passer d'un point à un autre sans véritablement comprendre. Comment j'y suis arrivé? Pourquoi j'y suis arrivé?
On t'entend et on t'imagine très rationnel. Est-ce que tu as
Ouais.
déjà fait un choix dans ta carrière qui n'était pas simplement basé sur la raison? Est-ce que tu as déjà fait des choix importants pour toi qui étaient sur des coups de tête? Ou peut-être raisonnés, mais qui avaient l'apparence de coups de tête ou de choix de cœur et pas forcément de réflexion du cerveau et de la conscience?
Oui, après, dans une carrière, il y a toujours des opportunités, des choix à faire. Je crois que le plus dur pour moi, ça a été de quitter Nice. Et si ça tenait qu'à moi, je serais peut-être resté une année en plus. Mais pas pour une raison sportive, c'est plus pour une raison privée, raison familiale, où j'ai perdu ma mère au mois d'avril et au mois de juillet, je me retrouvais assigné à Lyon, en laissant mon petit frère à l'époque qui devait avoir 11 ans, 12 ans, en laissant mon père. Et même si ce n'est que Lyon et que c'est pas si loin que ça, hein, je veux dire à distance, enfin, lorsqu'on regarde les distances, mais ça a été un pas en avant. Ça m'a véritablement lancé, bien sûr en tant que joueur professionnel, mais aussi en tant qu'homme. Mais ça a été, voilà, ça a été quelque chose de difficile à gérer, mais en même temps, c'est ce que voulait mon père, c'est ce que voulait mon frère, c'est ce que voulait ma grand-mère. C'était d'avancer. Il y a une chose vraiment, bon, c'est très privé, mais bon, on va en profiter pour le dire. Hein. Mais ma grand-mère est une grande source d'inspiration. C'est quelqu'un de très positif,
Ta grand-mère maternelle?
paternel, ouais, du côté de mon père. Et
Paternelle, ouais.
qui regarde toujours devant, qui regarde toujours devant. Et je ne sais pas si j'ai pris ça d'elle, mais je trouve ça fascinant chez les personnes voilà, de toujours. Je veux dire, lorsqu'on arrive à un certain âge, ben non, non, on a toujours des objectifs, on regarde toujours devant, toujours devant. Et c'est quelque chose de très fascinant chez elle.
Et à quel moment, justement, es-tu heureux dans ton métier? Est-ce que c'est dans... Ça peut changer d'un jour à l'autre, hein, d'ailleurs. Est-ce que c'est dans un vestiaire? Est-ce que c'est à l'entraînement? Est-ce que c'est dans un grand match? Est-ce que c'est quand tu brandis une coupe au bout de tes bras? C'est quel moment qui te rend heureux dans l'exercice de ta profession?
Bah, tu vois, sur cette période de confinement, il y a quelque chose également qui me manquait, c'est le vestiaire en fait. Et même si parfois bon, tu t'entends pas forcément très bien avec tout le monde, mais il y a quand même une forme de respect. Ça manque, quoi. C'est parce que c'est notre quotidien, et les rapports sociaux sont quand même importants, quoi. Même si après, bon, bien sûr, le football, c'est voilà, c'est un sport collectif, on a besoin des uns et des autres, hein, mais c'est ces rapports au quotidien, c'est voilà, de déconner un petit peu, de se raconter ses histoires, raconter, voilà, d'échanger sur l'actualité, enfin, bon, voilà,
Et
plein
ça,
de
tu peux
choses
le
comme
faire
ça.
ou...
Également d'aller de faire les efforts ensemble et d'aller à la bataille ensemble pour aller chercher les objectifs du club ou de l'équipe nationale, quoi.
Et ça te manque d'autant plus, toi qui parles beaucoup de famille, au premier degré, comme au degré peut-être du club et du vestiaire, ça te manque d'autant plus que tu es dans un club depuis 8 ans maintenant et que tu es un meuble, quoi. C'est ta famille. Tu as recréé l'autre famille d'une certaine manière, non?
Oui, j'ai toujours considéré une équipe comme une famille. Voilà, comme dans chaque famille, je veux dire, il y a des personnalités différentes. On peut être en accord, on peut être en désaccord, il peut y avoir des disputes, mais c'est comme ça. Le linge sale, on le lave en famille, c'est ce qu'on dit souvent. Donc voilà.
Quand il y a du linge sale, comment il faut le gérer, Hugo Lloris, justement dans cette famille, quand on est entraîneur, pour en tirer le meilleur, ça se gère comment, hein, Lloris?
Ce serait plus facile de demander à mes entraîneurs comment me gérer moi ou comment gérer une équipe, un groupe.
Non, comment il doit te gérer toi? Comment on tire le meilleur du Goloris en le laissant très libre, en lui faisant confiance, en l'encadrant beaucoup, en lui parlant beaucoup, en l'incluant dans le projet, en le laissant tranquille? Il faut faire comment avec toi? Parce qu'on sent quand même qu'il y a des entraîneurs avec lesquels tu as développé une relation beaucoup plus forte que d'autres et qui ont su peut-être te parler différemment que d'autres. Peut-être ont su tirer 110% du Goloris au lieu d'en tirer que 100%.
Ouais. Après, je pense qu'il y a l'évolution également du joueur. J'étais peut-être différent à 20 ans que je le suis aujourd'hui ou un peu avant à 30 ans. Donc, après, chaque entraîneur a son approche du football, a son approche du vestiaire. Je pense comme chacun, on a toujours besoin un petit peu d'attention. On a toujours besoin. Moi, en fait, j'ai toujours apprécié chez les entraîneurs le respect des joueurs. Mais le respect des joueurs, bien sûr, c'est dans sa façon de dire bonjour, c'est dans sa façon de s'adresser aux joueurs, mais également dans sa façon de proposer le travail. En fait, le plus beau respect qu'un entraîneur puisse donner à un joueur, c'est de le faire travailler. C'est de le faire travailler, de le pousser, de le retrancher dans ses limites, etc. Donc, alors après, peut-être c'est moins difficile, on va dire, pour un entraîneur des gardiens qui a géré 3-4 gardiens, pour un entraîneur à tirer le maximum d'une vingtaine de joueurs. Donc, après, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, comme la personnalité de l'entraîneur, l'idée de jeu également. Mais j'ai souvent tendance à dire qu'il n'y a pas de vérité dans le football, quoi. Ce qui nous unit, c'est la victoire, hein. Après, quelle que soit la façon de jouer au football, le but ultime, c'est de gagner. Donc, j'ai des relations fortes avec des entraîneurs qui n'ont pas forcément la même approche du football, la même philosophie de jeu. Mais c'est pour moi, ça reste secondaire.
Si je vais tout à l'heure dans la rue et que je demande aux gens de décrire Hugo Lloris en un mot, tu penses qu'ils vont me répondre quoi? Alors, je ne te parle pas de Londres, hein, je te parle de la France. Moi, je suis en France, donc on imagine avec le public français, pour être plus précis. En un mot, ils vont me dire quoi s'ils parlent de toi, tu crois?
Bon, je sais pas. J'espère quelque chose de positif. Non, non, non. Mais tu sais, souvent, on a tendance à dire. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important. Plus que l'armoire à trophées, etc. C'est voilà, ce que tu laisses dans ton passage, quoi, en tant que joueur professionnel, que ce soit dans les clubs dans lesquels tu évolues, mais ou en équipe nationale, c'est quelle trace tu laisses. C'est également une motivation pour qui. Enfin, ça peut être une motivation pour un joueur. En tout cas, pour moi, ça l'a été en équipe de France lorsque j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir démarrer très jeune. Voilà, quels sont les objectifs à atteindre et comment se donner les moyens pour le faire. Mais pour répondre à ta question, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas.
Moi, je pense qu'ils diront plein de choses. Ils diront champion, ils diront capitaine, ils diront discret, ils diront pro, ils diront peut-être effacé d'une certaine manière. Ils diront, comme je l'ai entendu avec Didier Deschamps dans plusieurs interviews, gendre idéal. Donc, il y a des choses qui sont très positives et d'autres qui sont pas négatives, mais qui sont cette trace que tu as peut-être laissée de quelqu'un qui n'aime pas s'imposer ou qui n'aime pas faire des gestes et des paroles inutiles. Ça, c'est une trace qui te va bien.
Bien sûr, on veut laisser une trace positive symboliquement par rapport à mon nombre de capitanats avec l'équipe de France, avec ce titre de champion du monde. Ça peut peut-être donner une idée, mais je me retrouve plus dans la discrétion, dans le professionnalisme. J'ai toujours essayé d'être le plus loyal possible avec ses propres valeurs, avec encore une fois sa personnalité, mais d'avancer, je veux pas le faire seul, je veux le faire avec. J'essaie de trouver des repères au sein d'une équipe, bien sûr, l'entraîneur, le staff, et ça crée des rapports forts, ça crée des liens forts. Et lorsqu'on est récompensé par ses efforts, comme le titre de champion du monde, forcément ça unit encore plus, et certainement dans le temps.
On va parler un peu des gardiens. Il y a beaucoup de clichés sur les gardiens, Hugo, ou peut-être des vérités, je ne sais pas, mais tu es bien placé pour m'en parler. Le premier cliché, c'est que vous seriez tous différents des joueurs de champ. Est-ce que c'est vrai? Votre cerveau est formaté différemment?
Oui, on est différents dans... Moi, j'ai côtoyé beaucoup de gardiens dans ma carrière avec des personnalités différentes, avec une approche du métier différente, une façon de jouer différente. Je pense que c'est le poste qui nous rend quand même à part et qui nous rend différents. Mais au fond de ça, on reste à la recherche du contact au sein d'un collectif. On a besoin des autres, on a besoin de nos coéquipiers pour être meilleurs. Et les coéquipiers ont besoin de nous également pour voilà, c'est un rapport où tout le monde doit être gagnant.
Et est-ce qu'on dit que vous êtes un peu fou? On dit que vous formez aussi une famille, un peu les gardiens, avec des valeurs peut-être un peu différentes de celles des autres joueurs.
Ouais, bon, j'ai connu également des joueurs un peu foufous. Hein. C'est pas le poste qui réserve ce côté atypique. Non, c'est. Je pense qu'on a le respect du poste. On a le respect pour un autre gardien parce qu'on sait ce qu'il peut ressentir. Et je pense qu'un joueur de champ ne peut pas le faire. En tout cas, pas tous les joueurs de champ ne peuvent se mettre à la place d'un gardien de but.
Et est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que le gardien de but peut se mettre à la place d'un numéro 9 qui a un but ouvert devant lui et qui manque l'occasion et qui frappe sur le poteau, justement?
On a toujours la liberté de pouvoir se mettre à la place d'un autre, mais... Mais encore une fois, je pense qu'il existe une confrérie de gardiens comme il existe une confrérie d'attaquants. Il y a des choses certainement qui se passent dans la tête des attaquants que je ne peux pas ressentir ou que je ne peux pas connaître. Quoi. Tant que je ne suis pas confronté à cette situation, je ne peux pas découvrir cette sensation et me faire ma propre analyse. Comme les autres ne peuvent pas se mettre à la place d'un gardien parce qu'ils ne sont pas confrontés à cette situation, à des moments précis, sous haute pression... C'est vrai qu'elle existe davantage chez les gardiens peut-être qu'à d'autres postes, mais la confrérie des gardiens existe et j'y crois, même si on peut être amené un jour ou l'autre à être concurrent. Quoi. C'est le respect du poste qui veut ça. Dans une saison, il y a des moments importants et souvent c'est là que les grandes individualités ressortent. Mais elles peuvent ressortir uniquement si autour d'elles, il y a un collectif bien fort, bien soudé, qui puisse permettre à cette individualité-là de faire la décision. C'est pour ça, souvent, on a tendance à dire on a besoin des uns et des autres. Bon, ce sont des banalités, mais elle est bien réelle et bien présente.
Comment tu fais pour te concentrer chaque seconde, pendant 90 minutes, même un peu plus des fois avec les prolongations ou une séance de tir au but, même lorsque le ballon est à 80 mètres de toi? Est-ce que tu as mentalement des routines, des mécanismes qui te font rester en permanence dans ta concentration?
Tout au long de ma carrière, mais ça c'est quelque chose que j'ai appris, oui et non, mais en tout cas un sujet sur lequel j'ai échangé avec Fabien Barthès, que j'apprécie énormément et que j'ai appris à découvrir très tôt dans ma carrière. Il me ressassait toujours la même chose, la concentration, la concentration, la concentration, la concentration. Plus on monte de niveau, et plus la concentration est déterminante. Mais c'est quelque chose qui est difficile à travailler, hein. Je pense qu'on arrive à gagner un petit peu au quotidien dans ces séances d'entraînement. Voilà, la répétition, la répétition, la répétition. Après, il faut savoir aussi que dans un match, on reste concentré, mais on peut s'évader, mais le temps de quelques voilà, millisecondes, quoi, hein. Lorsque le ballon est dehors, ou lorsqu'il y a un temps mort.
C'est ce que j'allais te demander. L'esprit ne vagabonde jamais pendant un match?
Alors, c'est. On va dire que sur des grands matchs, à fort enjeu, avec beaucoup de pression, ça risque pas. Mais sur des matchs, oui, de championnat parfois, où après un certain vécu et une certaine expérience, on peut qualifier, c'est pas ces matchs de routine, mais voilà, ce sont des matchs. On accorde de l'importance, mais moins que sur des grands moments ou sur des moments importants de la saison.
Et parfois, tu t'étonnes toi-même en plein match, dans ces matchs justement de routine, comme tu dis, tu t'étonnes parfois de penser à des choses improbables, quoi, de penser à la couche que tu as changée le matin même du petit dernier, ou ça peut être des choses comme ça. Et comment tu reviens à ton match? Qu'est-ce qui te remet dans le match?
Non, ça peut être des choses improbables, mais c'est vraiment c'est furtif, c'est très rapide, hein, c'est pas, et puis surtout c'est pas répétitif, c'est-à-dire que ça peut arriver à un moment et puis ça repart et on reste dans le match, hein, c'est pas, je veux dire, je suis jamais tombé enfin je me suis jamais jamais eu cette sensation dans un match d'être complètement à côté, quoi, ou alors pour d'autres raisons, mais pas pour celle-ci, pas pour la concentration, hein.
Et justement, le 15 juillet 2018 à Moscou, on va dire 92, 93e minute, il y a 4 buts à 2. Est-ce que l'esprit ne vagabonde pas un peu? L'arbitre n'a pas encore sifflé, il reste quelques secondes. Est-ce que tu es totalement dans ton match encore ou tu es déjà ailleurs?
À vrai dire, j'ai eu un petit coup de chaud avec mon erreur à 4-2, où en fait le quatrième but... Il y a eu un moment où c'est pas, tu te dis ça y est, mais à 4-1, tu te dis qu'il y a un avantage considérable et que le match tourne en ta faveur et que tu as l'impression que voilà, tout est aligné, quoi. Un moment de déconcentration, un moment de mauvaise prise de décision et tout se retourne, quoi. Bon, heureusement, avec l'expérience, Tu te remets très vite dans le match et tu ne subis pas cette fin de match. Mais même lorsque à 4-1 on se sent presque champion du monde, il faut faire abstraction de tout ça.
Tu es en train de me dire que ça t'a un peu gâché tes dernières secondes, ces dernières secondes où on sait que l'arbitre va siffler, où on sait que c'est terminé.
Non, ça m'a pas gâché. Honnêtement, ça reste anecdotique. Et même moi, sur cette fin de match, une fois que le coup de sifflet final retentit, je veux dire, je sais même plus, je pourrais même plus t'expliquer les actions, je pourrais même plus te dire comment on a marqué, tellement tu tombes dans un moment d'euphorie et quelque chose de difficile à décrire en termes d'émotion.
Tu te souviens de toute cette journée du 15 juillet ou déjà la mémoire opère un tri où il te reste simplement que des flashs?
Ah, j'aurais du mal à la décrire entièrement. J'ai des flashs importants, des moments importants. Mais je pourrais pas te dire ce que j'ai déjeuné le matin du match.
Mais peut-être la
même
teneur.
Même si j'ai quelques habitudes. Hein, mais...
La teneur d'un SMS. La teneur d'un SMS où tu pourrais me dire si tu as bien dormi ou pas bien dormi, comment tu étais au réveil, ça tu t'en souviens, non? Ou de la causerie de Didier perturbée par la climatisation.
Ah, ça c'est extraordinaire. C'est vrai qu'on l'a pas trop entendu cette histoire de la causerie du coach. C'était assez. Assez marrant, quoi. Enfin bon, il fallait se contenir, mais même lui, à un moment donné, on se posait la question s'il allait aller au bout du speech ou non, quoi. C'est marrant, c'est un beau souvenir.
Bref, la causerie la plus importante de son histoire d'entraîneur et de votre histoire de joueur, elle était complètement vautrée.
Ouais, ouais. Mais bon, ça fait partie de la petite histoire. Et voilà. Au bout, il y a eu ce que tout le monde recherchait. C'est le plus important.
Tu fais partie de ceux qui ont parlé, peut-être pas pour toi, hein, mais ont utilisé cette expression de burn-out après la Coupe du Monde. Donc même quand on est rationnel, expérimenté, qu'on a 32 ans, hein, tu avais 32 ans je crois en 2018, ou 31 ou 32, on n'est pas à l'abri de ce contre-coup violent après être monté aussi haut. On n'est jamais à l'abri.
Non, alors je veux pas qualifier ça de burn-out, mais j'ai eu un gros contre-coup. Parce que après il y a eu les sollicitations et les obligations en revenant sur Paris, en revenant sur Nice. Je crois qu'on était donc la finale était dimanche. Je crois que je me suis retrouvé c'était le jeudi où j'ai pas pu me lever du lit et j'étais complètement vidé, mal à la gorge, un peu de fièvre, enfin complètement. Il m'a fallu quelques voilà 3-4 jours pour pouvoir remonter la pente, mais j'étais complètement épuisé. Après c'est bien sûr la compétition, c'est un mélange d'efforts, d'émotions et je pense de relâchement aussi.
Et donc à l'inverse, on n'est pas à l'abri dans ces moments uniques et très rares, même dans une carrière de sportif de haut niveau, on n'est pas à l'abri d'une crise de grosse tête, ce qui a pu, peut-être pas à toi, hein, à 32 ans, mais arriver à d'autres de tes coéquipiers, c'est presque logique.
Oui, ça peut se comprendre, honnêtement. Lorsqu'on est jeune, on a besoin d'être confronté à des obstacles. Pour un joueur un peu plus expérimenté, on est peut-être déjà passé par ces obstacles, même si on n'a pas été champion du monde, pour d'autres raisons, pour d'autres titres, pour certains, mais on prend les choses peut-être un peu différemment. Enfin, en tout cas, c'était j'étais plus dans le besoin de me reposer. Mais après, tu repars très vite sur une nouvelle saison, quoi. Tu as à peine 15 jours de repos et tu as le club qui te, voilà, qui te demande de revenir pour reprendre la saison, quoi. Donc c'est, voilà.
Mais tu comprends que chez les plus jeunes, ce soit un peu plus compliqué de se reconnecter justement à la réalité. Quoi.
On a tous notre parcours. Forcément, lorsque tu es champion du monde à 20 ans, 21 ans, c'est pas pareil lorsque tu as 33 ans, enfin à l'époque j'en avais 31 ou 32, avec tout ce que j'ai pu connaître en sélection. Il y a eu des très bas, et puis il a fallu remonter la pente. Et il y a eu également cette finale de l'Euro qui a été vraiment douloureuse. Tout ça te fait garder les pieds sur terre, quoi. Même si tu as cette sensation que le monde est à l'arrêt, que tout le monde est focus sur ce match. Et lorsque tu gagnes, tu as l'impression d'être au-dessus des nuages. Donc c'est logique qu'un jeune se laisse tenter par ses sensations, ses feelings. Mais bon, après, tu es très vite rattrapé par la réalité, encore plus dans le sport de très haut niveau.
Tu parlais d'objectifs tout à l'heure. Tu dis souvent que j'ai besoin d'objectifs pour continuer à travailler chaque jour. Quels objectifs actuellement te permettent de te lever le matin et te donnent l'envie de te dépasser ?
Moi, j'ai toujours eu cette envie au fond de moi. Voilà,
Est-ce que c'est gagner ? Est-ce que c'est battre des records ?
Avant tout, c'est de gagner. Je n'ai pas forcément connu le grand succès collectif au long de ma carrière, mais en tout cas je me suis donné les moyens pour y parvenir. Après il faut être au bon endroit au bon moment. J'ai toujours fait en sorte d'avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même pour atteindre les objectifs. Après le football reste du football, on gagne, on perd, ça se joue tellement sur pas grand chose. Je veux dire, lorsque tu connais une défaite en finale de l'Euro, lorsque tu connais une défaite en finale de Ligue des Champions, eh ben, tu as envie de tout faire pour revenir encore plus fort et essayer de pousser les gens autour de toi à aller dans le même sens.
Et personnellement, tu te mets des objectifs en tête, du style, est-ce que tu regardes les chiffres, tu rames 142 sélections, tu en es à 114, tu te dis, bien, si je fais encore 2 ou 3 ans avec l'équipe de France, donc l'Euro, donc une phase finale de Coupe du Monde, si ça se trouve, je serai pour... pas toujours, mais très très longtemps, le recordman des sélections d'équipe de France. Ça fait partie des choses qui t'intéressent ou ça viendra si ça doit venir.
J'ai jamais eu cet appétit pour les records. Après, si on les bat, tant mieux. Je veux dire que lorsque j'ai démarré en équipe de France, je me suis jamais dit et mis en tête, je veux battre le record de Fabien en termes de sélection. Et c'était lui le premier à me dire, écoute, je te souhaite qu'une chose, c'est de me dépasser. Enfin, c'était bon, c'est la classe. Hein, on parle. Cette génération 98, voilà, c'est pour la plupart, ce sont tous des gentlemen et ils souhaitent que des bonnes choses aux plus jeunes qui le méritent. Comme moi, je ferai certainement de la sorte avec un futur.
Ben justement,
j'espère.
Il reste deux petites questions. Ben je lui souhaite d'avoir tes conseils. Quand tu vois Florent Balmont,
Oui.
ton ancien coéquipier à Nice qui annonce sa retraite,
Ouais.
J'imagine que tu as vu cette info, tu es au courant de la façon qu'il a, malheureusement pour lui, d'arrêter sa carrière à moitié de saison. Est-ce que tu te projettes, toi, en voyant ça, dans ton monde d'après? On en parlait un peu tout à l'heure. Tu le vois comment, ton monde d'après? Besoin du sport, du football, toujours dans ce monde-là?
Ah, je pourrais pas te répondre. Parfois, j'essaie d'imaginer un peu les choses, mais j'ai du mal à trouver les réponses. Je me dis également que j'ai commencé le football à l'âge de 6 ans et j'en ai 33 aujourd'hui. J'ai 15 ans dans le monde professionnel. On a quand même certains acquis, une certaine expérience, une certaine expertise dans notre domaine et dans notre milieu. Donc, il est difficile de s'imaginer faire autre chose. Donc, voilà, je ferme aucune porte, mais j'avance déjà avec une idée de finir ma carrière du mieux possible et le plus haut possible. Et ensuite, on se posera pour mettre les choses à plat.
Allez, je t'embête plus juste avec un petit quiz de fin. On l'a fait avec Didier Deschamps la semaine dernière, c'était très rigolo. Mais moi, je vais te le faire avec version gardien. Pour toi, le gardien parfait, idéal, il aurait le pied droit de qui?
Je pourrais dire Steve Mandanda.
Il aurait le pied gauche de qui? Tu as le droit de dire Hugo Lloris.
Ah, on peut dire Hugo Lloris, oui. Bon.
Très bien. Il aurait le cœur de qui?
Je pourrais dire Joël Bats.
Il aurait les mains de qui? Tu as le droit de dire Hugo Lloris à chaque fois, personne ne t'en voudra. Hein. On en est aux mains, ustensile important dans le rôle de gardien.
Mais il faut que ce soit un gardien de but?
Ah oui, ouais, bah, tu peux dire Diego Maradona, mais je suis pas sûr que ses mains lui serviraient vraiment pour être un bon gardien. Écoute, oui, plutôt gardien de but, oui.
Bah, la petite anecdote, ce serait peut-être Lionel Letizy, tu vois, pour la petite anecdote. Donc j'étais à Nice et j'étais déjà en place en équipe première. Et en fait, Lionel Letizy est revenu d'Écosse, des Glasgow Rangers, pour finir sa carrière à Nice et m'accompagner sur mon début de carrière. Quoi. Et c'est vrai que Lionel avait une prise de balle de très très haut niveau, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Voilà.
Alors on a fait le pied droit, le pied gauche, le cœur, les mains. Il aurait l'intelligence de qui?
Ah, sans contexte, je pense que je dirais Fabien Barthez. Il a une intelligence de jeu. Il sent des choses, il voit des choses que d'autres ne peuvent pas. Quand tu parles de jeu avec Fabien, c'est extraordinaire.
Et enfin, il aurait le charisme de qui?
Ouais, je pourrais dire un gardien comme Buffon.
Tu peux dire Pete Sampras, hein, mais il n'est pas
Non, mais
gardien
pour
de
rester
but.
dans les gardiens de but, je pourrais dire Buffon. C'est vrai que c'est quelque chose qui l'a accompagné tout au long de sa carrière, son charisme, son aura italien.
Rassure-moi, tu l'as, enfin, ou rassure-moi, pourquoi pas, d'ailleurs, tu fais ce que tu veux. Tu l'as plus, ton poster Pete Sampras, dans ta chambre,
Non,
là, à Londres,
non,
hein,
non, non,
il n'y
je
a
ne
plus de
l'ai plus.
poster, c'est bon. Bon. Est-ce que tu l'as rencontré, Pete Sampras?
Non, 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 j'ai pas eu ce plaisir de le rencontrer
Eh ben voilà ce qu'on va mettre au point. Voilà, une entrevue sympa à faire. Eh ben on te fera rencontrer Pete Sampras. Voilà, c'est l'objectif 2020, essayer de vous mettre en contact tous
Ah
les deux. Si ça te dit, hein, parce que je vais pas non plus
ouais.
te forcer. C'est jamais facile de rencontrer une idole
Ah non,
d'enfance.
c'est sûr. Mais c'est vrai que j'imagine toujours d'échanger quelques balles ou des trucs. Moi, j'avais cette,
Eh ben.
cette, je regardais pas trop le tennis, hein, mais je regardais les grands tournois. Mais je regardais tout le temps Roland Garros et je souhaitais tellement qu'il le gagne. Et je passais les après-midi chez mes grands-parents à attendre son passage sur les courts. Et je crois qu'une année, il est allé jusqu'en demi-finale, je crois. Il perd. Je crois qu'en quart de finale, il élimine Boris Becker, je crois. Et tu te dis, ça y est, c'est son année. Et au final, non. Et puis, malheureusement, il n'a jamais pu le gagner. Mais c'est vrai que c'est des choses qui me restent encore en mémoire. Mais j'avais j'étais fasciné par son service volley, quoi. C'était exceptionnel. Sur dur, sur gazon, ce mouvement de jambes, cette façon de jouer offensivement. Voilà, c'était
le grand champion. En parlant de ça, Steve Mandanda est pas mal au tennis, non? Vous jouez des fois, vous avez la possibilité de jouer l'un contre l'autre ou pas du tout? Parce que moi j'ai un souvenir de Steve pas trop mauvais au tennis.
Non, je crois qu'il a continué à s'entraîner, mais la première fois, enfin bon, on n'a jamais joué au tennis, mais on a c'était à l'époque en préparation de 2010 avec Bruno Martini. On avait eu quelques séances de tennis à Tignes. C'est sympa d'ailleurs, ça change. Mais on se retrouve dans les déplacements. J'ai toujours fait le lien entre le déplacement du joueur de tennis et un gardien de but où il y a quand même beaucoup de similitudes.
Merci Hugo pour ton temps précieux. Merci beaucoup.
Ben, merci Grégoire. C'est un plaisir.
Merci Hugo. Dans le prochain épisode, je recevrai Wendy Renard, l'ancienne capitaine de l'équipe de France de football. À très vite.
Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.